quieren, tontos.
Oui, et salut à tous, bienvenue sur Bac FM 106.1 dans votre émission Metal Check Meload. Et oui, comme chaque vendredi sur Bac FM, c'est le métal qui fait son show. Tout d'abord à 14h, puis en rediff à 22h, suivi bien sûr de la programmation métal jusqu'à minuit. Alors aujourd'hui, au programme de ce Check Meload, c'est que de la nouveauté. J'ai une sortie pour ce jour, mais pas des moindres. On reviendra aussi sur deux très belles sorties de la semaine dernière, plus quelques sorties de septembre, et on va comme ça remonter jusqu'au mois d'août. On terminera par la rubrique 20 ans dans tes dents, celle que je vous avais concoctée pour l'émission d'il y a 15 jours. Mais voilà, il y avait eu l'interview de Terrafosa, on avait été un petit peu bousculé, on n'avait pas eu le temps d'écouter le groupe que je vous avais sélectionné, du coup il revient aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de vous faire redécouvrir ce titre, mais ça c'est pour tout à l'heure, en toute fin d'émission. On commence, si vous le voulez bien, par la sortie du jour, et c'est du Made in France en plus, puisque c'est le groupe Black Bombay, avec un nouvel album qui s'intitule également Black Bombay. Alors je vais quand même faire un petit point sur les origines du groupe, hein. Il y a peut-être des gens encore parmi vous qui les connaissent pas, même si c'est un des combos emblématiques de notre scène métal française. Donc c'est un groupe qui est originaire de région parisienne, qui s'est fondé en 95 à Viroflay, plus exactement dans les Yvelines. À cette époque-là, il y avait le duo de chanteurs Poon et Jag, avec des potes musiciens, hein, c'est ensemble qu'ils vont fonder Black Bombay. Alors de cette époque lointaine, aujourd'hui il reste plus que Poon, qui partage désormais le chant avec Arnaud. Sinon, pour le restant du groupe, à la guitare, c'est Snake, hein, qui est là, lui, depuis 96, donc qui est pratiquement là depuis les débuts. Quant à la section rythmique, eh bien, elle se compose actuellement de Jacou à la basse et de Hervé Coquerel, qui fait également partie de l'Outblast, qui, lui, est à la batterie. Pour ce qui est du style, avec Black Bombay, on est sur un mélange de punk hardcore, de crossover trash. C'est une véritable référence, hein, comme je disais tout à l'heure, de la scène métal hexagonale depuis maintenant plus de 15 ans. Et ce succès, il va arriver assez vite, hein, puisque dès son premier album qui s'appelait Human Bomb en 2001, Black Bombay va frapper très fort, va s'imposer directement au sein de la scène métal. À ce moment-là, en France, on est en pleine effervescence, il y a des groupes qui pullulent d'un peu partout, de très très bons groupes, dont beaucoup sont encore là actuellement. En 2004, Black Bombay va sortir un deuxième album, c'est Speech of Freedom, qui contient notamment l'incontournable Mary, qui est probablement leur morceau le plus célèbre. C'est aussi un album, Speech of Freedom, qui marque l'arrivée d'Arnaud, qu'on va retrouver aussi sur l'album Once and By to React en 2006, avant que Jack, donc le chanteur d'origine, ne reprenne le micro sur un seul album, sur From Chaos en 2009, puisque sur le suivant, Enemy of the State, eh bien c'est un nouveau chanteur, la personne de l'écossais Sean Davidson, qui va officier aux côtés de Poon, et ça n'est pas le dernier retournement de situation, puisque ensuite c'est Arnaud qui va finalement reprendre du service sur l'album Comfortable 8, qui était paru en 2006. 2016. Arnaud, qu'on retrouve donc encore une fois aux côtés de Poon sur le deuxième album du combo parisien, qui s'intitule, comme je vous disais tout à l'heure, Black Bombay. Il a été produit du côté de Sainte-Marthe par monsieur Francis Cast, qui a un CV maintenant assez imposant pour qu'on ne le présente plus. Alors je vais quand même vous donner trois noms de groupes qui, dans les plus récents, qui ont marqué. Il y a Rise of the North Star qui va sortir un album très bientôt, d'ailleurs on va en parler très prochainement. The Ars, Hangman's Chair, dont le dernier album est absolument excellentissime. Donc voilà, Francis Cast, valeur très très sûre de la production française. Que dire d'autre sur ce nouvel album éponyme de Black Bombay ? Eh bien qu'il représente ni plus ni moins qu'un Black Bombay à l'état pur et brut, mais surtout à l'instar de son artwork qui est très très épuré, c'est un Black Bombay simple, sans artifice, sans superflu. Inutile donc de préciser que le groupe va encore une fois tabasser, mais surtout que l'album s'annonce d'ores et déjà comme une des sorties métal incontournables du dernier trimestre de 2018. On découvre tout de suite ça avec Arrogance, c'est le titre qui ouvre l'album, voici Black Bombay.
Oh,
C'était Black Bombay à l'instant sur Back FM 106.1 dans l'émission Metal Check Melode. Un extrait du nouvel album intitulé Black Bombay qui paraît aujourd'hui. Vous venez d'écouter le titre Arrogance, c'est le titre qui ouvre le disque. Et Black Bombay, eh bien, comme son nom l'indique, c'est de la bombe atomique. C'est à découvrir de toute urgence si vous avez aimé les autres albums du groupe. Si vous découvrez Black Bombay aujourd'hui, allez vous plonger dans à peu près toute leur discographie puisque il y a quasiment que des bons albums. Allez découvrir les deux premiers, qui sont quand même ceux qui ont forgé un peu le son du groupe. En tout cas, c'est une valeur sûre et cet album-là en est une nouvelle preuve. Après le hardcore crossover trash de Black Bombay, on va passer maintenant à du black avec une grosse sortie qui est parue la semaine dernière, vendredi dernier 5 octobre. Il s'agit des excellents Behemoth qui ont sorti un nouvel album intitulé I Love You at Your Darkest. Alors Behemoth, c'est un groupe polonais qui nous vient de Danzig, qui existe depuis 1991. Il a été créé par un trio composé de Nergal au chant à la guitare, de Desecrator à la guitare et de Bal Ravenlock à la batterie. Alors de cette époque, aujourd'hui, il n'y a plus que Nergal, qui de toute façon est depuis toujours le leader incontesté de la formation. Alors avec Behemoth, on est sur du black traditionnel à ses débuts. Et puis après, il va y avoir un virage plutôt black and death, comprenez par là un mélange de black et death metal. Ça va être à partir de l'album Satanica qui est paru en 1991. La discographie de Behemoth, elle se compose à l'heure actuelle de 10 albums studio, dont les deux avant-derniers, Evangelion en 2009 et The Satanist en 2014, ont connu un très très gros succès commercial, alors surtout en Europe et aux États-Unis. Et puis Behemoth a également sorti plusieurs EP, plusieurs lives. Le dernier d'ailleurs, il est tout récent, c'était Messe Noire, il est paru au mois d'avril. Côté studio, il était grand temps pour nos Polonais de délivrer enfin un nouveau méfait. C'est chose faite avec I Love You At Your Darkest, un album aussi complexe que blasphématoire qui est peut-être le disque le plus noir de Nergal et sa bande. Et oui, ils peuvent faire encore plus sombre que ce qu'ils avaient fait auparavant. C'est à la fois varié, lourd et destructeur. I Love You At Your Darkest contient vraiment tous les éléments qui ont fait le fameux son qu'on reconnaît entre mille de Behemoth. Les nouvelles compos, elle vogue quasiment sans cesse entre, une certaine classe et de l'agressivité, le tout étant parsemé de nouveautés, de variations qui vous tiennent en haleine du début jusqu'à la fin. Et puis quant à l'écriture, elle est toujours aussi soignée, avec des transitions ultra travaillées, des enchaînements qui sont amenés avec une évidence déconcertante. J'ai envie de dire que Behemoth fait un retour éclatant de noirceur avec un 11e album qui a vraiment rien à envier à ses glorieux grands frères. En voici d'ailleurs un extrait avec le titre God Equal Dog. D'ailleurs, si vous n'êtes pas une âme sensible, je vous invite après l'émission à aller visionner la vidéo du morceau. Alors du moins si vous êtes majeur, parce que YouTube vous demandera de confirmer votre âge pour pouvoir y accéder. Tout de suite, Behemoth. We'll be right back. Comment faire hurler des insanités à un cœur d'enfant? Eh bien, Behemoth l'a fait sur ce God Equal Dog, un extrait du nouvel album qui s'appelle I Love You at Your Darkness, qui est paru la semaine dernière. Un album que je vous conseille vivement si vous êtes amateur de black metal, de death, et donc d'autant plus si vous êtes du coup amateur de black and death. C'est du grand art. Les Polonais, ils font vraiment un très très gros retour. Et surtout que Nergal revient quand même de loin, hein, puisqu'il y a quelques années, il avait été très très malade, on donnait pas cher de sa peau. Donc voilà, ils sont plus en forme que jamais et ça, ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais moi je kiffe en tout cas d'écouter tous ces morceaux que je vous propose aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en général, quand je mets des morceaux au programme de l'émission, ils me plaisent quand même un tant soit peu. Mais voilà, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à les écouter. Et c'est pas fini, hein, puisque on va encore changer de style, on va encore changer de pays. On va aller maintenant du côté de la Californie, à la rencontre d'un groupe qui a déjà aussi une très belle carrière derrière lui, qui est peut-être un peu moins connu que Behemoth dans son genre. C'est Eye on Fire, avec un nouvel album sorti également le 5 octobre, un album qui s'appelle Electric Messiah, pardon. Donc Eye on Fire, c'est un groupe qui nous vient de la ville d'Auckland, qui existe depuis 1998. Il a été créé sous l'impulsion du chanteur-guitariste Matt Pike. Après la dissolution de sa précédente formation, c'était le groupe de doom stoner metal qui s'appelait Sleep, pour les connaisseurs. Sleep qui a d'ailleurs repris du service en 2009, mais ça c'est une autre histoire. Alors pour donner naissance à Eye on Fire, Matt Pike qui va faire appel au batteur Death Cancel et puis au bassiste George Rice. Alors lui va être remplacé successivement par Joe Preston et puis par Jeff Matz, qui lui aussi hein, fait partie d'une autre formation. Il s'est illustré auparavant au sein de Ziki. Alors Eye on Fire, au départ c'est un projet qui a été conçu pour que Matt Pike en fait puisse intégrer ses influences trash, enfin toutes les influences trash de sa jeunesse. Et puis finalement, Eye on Fire, il va prendre la forme d'un groupe de heavy metal avec des influences qui vont être à la fois stoner, sludge, bien sûr du coup trash. Et au cours de ses 20 années de carrière, Eye on Fire s'est forgé une identité assez singulière avec des riffs imposants, une section rythmique qui est à la fois propulsive, enfin qui est très, enfin qui ouais, qui a une force propulsive tout en étant massive. On a aussi des solos assez tranchants, des paroles poétiques, et bah, tous ces éléments font que le groupe récolte bien des louanges, et ce, bien au-delà de la scène métal. Alors, ils avaient sorti un premier album en 2000, il s'intitulait The Art of Self-Defense, mais c'est avec le suivant, Surrounded by Thieves, sorti en 2002, que le groupe va commencer réellement à faire parler de lui, à tourner assez massivement. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs en assistant à un concert de Eye on Fire que les membres de Mastodon se sont rencontrés. Voilà, ça c'était juste la petite note de culture du jour. Mais revenons bien sûr à la discographie de Eye on Fire. Elle compte aujourd'hui 8 albums studio, parmi lesquels les excellents Death is This Communion en 2007. Il y a eu aussi très bon Snakes for Divine en 2010. Et ou encore Luminiferous en 2015. Ce que je vous conseille, ces trois albums-là, si vous avez envie un peu de redécouvrir leur carrière. Mais bien sûr, aujourd'hui, on s'intéresse à leur petit dernier, à Electric Messiah, qui est paru la semaine dernière. Un album dont le titre a été inspiré à Matt Pike, un jour où il rêve de Lemmy Kilmister. Alors, il faut savoir qu'on a souvent comparé Matt Pike et Lemmy Kilmister, et dans ce fameux rêve, eh bien, Lemmy venait se venger de tout ça et humilier Pike, qui va donc composer, suite à ce rêve, le morceau Electric Messiah, qui sonne en fait bah, comme un hommage à Lemmy Kilmister. Hein. Tout ça, c'est à prendre au millième degré, parce que Lemmy, il est de toute façon irremplaçable. Sinon, côté son, pour la troisième fois, le groupe a fait appel au producteur Kurt Ballou. Il s'est notamment, lui, illustré en bossant pour Converge, pour Kvelertak. Et ben, on sent que l'alchimie est palpable hein, entre le groupe et le producteur. L'album, il est plus rapide que jamais, mais c'est définitivement la dynamique hein, qui cloue l'auditeur à son siège, alors que beaucoup ont tendance quand même à s'essouffler avec le temps. Eye on Fire semble de plus en plus fort, c'est un groupe qui n'a de cesse d'évoluer, qui atteint à chaque fois de nouveaux sommets, donc je crois que tout est dit, on peut écouter le morceau titre Electric Messiah, voici Eye on Fire. We'll be right back. C'était un petit décrassage des conduits auditifs en règle offerts par Ion Fire avec le titre Electric Messiah, extrait de l'album du même nom, c'est paru la semaine dernière. Un titre hommage à ce cher et grand Lemmy Kilmister. Alors c'est vrai que dans la voix de Matt Pike, on a un petit peu de Lemmy, mais c'est vrai quand même que Lemmy est irremplaçable. Voilà, on reviendra pas là-dessus, hein, même s'il y a d'autres grands artistes. Dans le milieu métal, lui, voilà, ça va... C'est devenu un des dieux du métal. D'ailleurs, le Hellfest lui a rendu hommage avec une très belle statue installée sur son site. Le Hellfest qui a mis en vente ses passes le 10 octobre à 10h. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça a été complet. On n'a rien de temps, ça a été absolument faramineux. Alors que pour l'instant, le festival n'a annoncé que 4 groupes, il me semble, 4 ou 5 grand maximum. Donc voilà, c'est hallucinant. Tous les ans, on a un nouveau record. Donc bravo au Hellfest qui va encore afficher complet cette année. La suite du programme, un petit peu de metalcore, tiens, on va encore changer de style. Aujourd'hui, on varie beaucoup. Hein. Par contre, on va rester aux États-Unis. On va juste changer d'état cette fois-ci et on va s'intéresser au groupe Beartooth qui a sorti le 28 septembre un album intitulé Disease. Alors Beartooth, c'est un groupe qui nous vient de l'Ohio, de la capitale de l'Ohio, qui s'appelle, si vous êtes doué en géographie, vous aurez certainement deviné, Columbus. C'est un groupe qui a été créé en 2012 par le chanteur Khaled Chomo, qui s'était déjà illustré au sein d'un groupe, le groupe Attack Attack, qu'il avait quitté suite à une grosse dépression. Alors avec Beartooth, on est sur un mélange de metalcore, de punk hardcore, assez mélodique quand même. C'est dans le sous-sol de sa maison hein, que Khaled Chomo va composer et enregistrer Disgusting, le premier album signé Beartooth qui paraît en 2014 et qui va faire sensation au sein de la scène metal hardcore. C'est l'album qui va permettre aussi au groupe de voir sa carrière s'envoler vers de nouveaux sommets, puisque par exemple, Beartooth va rapidement cumuler plus de 10 millions de vues sur YouTube et va partager les scènes du monde entier avec des pointures comme Slipknot, Pierce the Veil, Bring Me the Horizon ou encore Suicidal Tendencies, ce qui n'est pas rien. Cerise sur le gâteau, le groupe sera nommé New Artist You Need to Know par le très prestigieux magazine Rolling Stone. 2 ans plus tard, en 2016, Beartooth va frapper de nouveau avec l'album Aggressive, qui est toujours composé, enregistré par Khaled Chomo dans son home studio, mais ce sera en coproduction avec le producteur John Feldman, qui a bossé avec Papa Roach, avec Black Veil Brides par exemple, et avec un mix signé de David Bendes, qui lui aussi a bossé avec pas mal de monde, hein. Il y a eu Killswitch Engage, Bring Me the Horizon. Et là encore, bah, l'album, ça va être une vraie grosse réussite, il va connaître un succès retentissant et faire de Beartooth, eh bien, la nouvelle sensation de la scène metal hardcore. Metalcore, pardon, oui, un peu hardcore aussi, mais plutôt metalcore quand même. C'est donc désormais en tant que valeur sûre hein, de cette scène metalcore qui est très très bouillonnante hein, que Beartooth sortait fin septembre Disease, un troisième album décrit par Khaled Chomo comme un tourbillon d'émotions. Alors cette fois-ci, il a été produit en collaboration avec Nick Rasculinex. Alors lui, il a bossé avec les plus grands. Hein. Il y a eu Deftones, Korn, Mastodon, Foo Fighters, pour en citer vraiment qu'une poignée. Et donc, Disease, il se distingue de ses deux prédécesseurs en cassant un petit peu les codes et en ouvrant l'horizon musical du combo de façon bien plus large. D'ailleurs, certains reprocheront peut-être à ce nouvel album son côté parfois un peu popisant. Ça, je pense qu'il y a des gens que ça va gêner un petit peu. Mais c'est une évolution qui est parfaitement assumée par Beartooth, qui n'en oublie pas pour autant de proposer des titres puissants avec quand même une dimension plutôt sombre dans le fond. Hein. On va en écouter un extrait tout de suite de cet album Disease, et justement le titre que l'on écoute c'est Disease, voici Beartooth sur Mac FM. If I fall again, will it be the end? I know it's wrong, you think I'm strong, but I just pretend. Is it taking over? Will it bury me? Or will clarity become the cure for my disease? It's like holding on when my grip is
make me whole again. It's like holding on when my grip is lost. I still feed my insecurity when I know the cost. Is it taking over?
Dans l'émission métal Check Me Loud avec le titre Disease, extrait de l'album du même nom, Disease, donc paru il y a 15 jours tout juste. Birtus, groupe de l'Ohio, qui est une des grosses sensations metalcore de ces derniers temps. Encore une fois, un gros album qui devrait bien marquer la carrière du groupe, malgré le côté popisant, je le disais tout à l'heure, qui pourra peut-être en rebuter certains. Aujourd'hui, à Nevers, il aura fait chaud, on annonce 26-27 degrés, c'est-à-dire la même température qu'à Los Angeles aujourd'hui pour l'après-midi là-bas, puisque là on est en décalage horaire. Donc voilà, Nevers-Los Angeles, même combat, et bien ça tombe bien, nous partons pour Los Angeles retrouver un groupe assez... une grosse pointure, on va dire, de la scène punk hardcore, puisqu'il s'agit du groupe Terror, qui a sorti le 28 septembre l'album Total Retaliation. Terror, groupe donc fondé en 2002, autour notamment du chanteur Scott Vogel et du batteur Nick Jett, qui sont les deux seuls membres fondateurs encore présents à ce jour. Donc là, voilà, on est vraiment sur du punk hardcore pur jus, j'ai envie de dire. Leur toute première production, ce sera un EP, ce sera The West of the Law, il arrive en 2003. Il sera suivi moins d'un an plus tard par un premier album intitulé One with the Underdogs, qui va s'écouler à plus de 40 000 exemplaires, pas mal hein, pour un premier album, et qui va aboutir à une grosse tournée mondiale pour Terror, dont la discographie va largement s'étoffer depuis 2002, puisque à ce jour on a 7 albums studio, 5 albums live et 5 EP. Alors en choisissant tout au long de sa carrière d'ignorer les courants musicaux à la mode, Terror a cimenté en lettres de pierre son statut de gardien du hardcore old school, tout en gagnant quand même les faveurs de toute une nouvelle génération de fans de métal, de hardcore, une marque de fabrique qui est de toute façon indéniable et qu'on retrouve forcément dans ce Total Retaliation, leur nouvel album qui nous envoie un hardcore direct, agressif, puissant, à grands coups de guitare enragée, de batterie rapide et brûlante, de basses glissantes et percutantes et d'attaques massives de double chant à travers lesquelles Terror repousse les frontières du hardcore pour nous offrir une expérience explosive, authentique et brutale. Alors préparez-vous à la déflagration, tout de suite on écoute Terror avec le morceau Mental Demolition.
Demolition, cold-blooded feeling. I've lost all of belief.
à l'instant dans l'émission Check Meload avec le titre Mental Demolition, extrait de Total Retaliation, qui est paru il y a 15 jours maintenant. Terror donc du hardcore, du punk hardcore californien qui nous vient tout droit de Los Angeles, grosse pointure du genre. Allez, on quitte les baggies, on renfile le jean et les perfecto à clous puisque on reprend le chemin de la France avec des légendes du hard rock français. On va maintenant s'intéresser au groupe Vulcain. Vulcain qui a failli jouer dans notre département au mois d'août, qui a dû annuler pour cause de gros soucis de santé de son chanteur. Donc voilà, pour tous ceux qui ont été déçus de ne pas pouvoir applaudir Vulcain à Narcy en août dernier, on va les écouter. C'est une maigre compensation, ma foi. J'ai pas pu vous faire mieux, ma foi, que de vous faire découvrir un extrait du nouvel album paru le 14 septembre qui s'appelle Vinyle. Alors, pour les plus jeunes de nos auditeurs, Vulcain, c'est un groupe qui nous vient de Paris, qui a été fondé en 81, et oui, par le chanteur-guitariste Daniel Puzio et son frère, le bassiste Vincent Puzio. Et depuis 85, le groupe comprend également le batteur Marc Varez. Alors Vulcain, c'est un mélange de heavy metal, de hard rock. C'est un des groupes à la carrière la plus longue et avec le plus de notoriété, enfin avec la notoriété la plus établie du paysage hard and heavy français. Pour un peu détailler leur premier album, il est mythique, hein, c'était Rock'n'Roll Secours. C'est une véritable pierre angulaire du genre en France, qui sort en 84, peu de temps après une première démo. La démo, il me semble qu'elle s'appelait Priva et elle doit dater de 82 si je dis pas de bêtises. Alors dès ce premier album, Rock'n'Roll Secours, le groupe va acquérir le surnom de Motorhead français. On y revient à Motorhead, hein, ils sont très présents aujourd'hui, un surnom toujours utilisé aujourd'hui, même si ces derniers ont toujours mixé bien plus d'influence que les glorieux britanniques, hein. Sur Vulcain, ça ratisse quand même beaucoup plus large que chez Motorhead. Alors moi je pense que c'est plutôt dans l'énergie et dans la voix de Daniel Puzio, voilà, qu'on peut faire la comparaison. Que dire d'autre sur Vulcain? Eh bien qu'il y a eu pas mal de changements de line-up, hein, depuis 81, mais malgré tous ces changements, c'est un groupe qui a toujours tenu bon, qui a sorti assez régulièrement de nouveaux albums jusqu'à la fin des années 98. Mais en 98, eh bien la sortie de Stop la Machine sonne la fin du combo. Donc là, on pensait que c'en était terminé pour Vulcain. Mais non, pas du tout, puisque fin 2009, la passion du hard rock va être plus forte et le Power Trio va décider de se reformer. Un retour qui va être triomphant, hein, puisque Vulcain va tourner intensivement. Ils passeront notamment par le Hellfest, ils vont ouvrir pour plusieurs dates de Motorhead en 2010. Un retour en force donc qui va se concrétiser avec la sortie en 2013 de l'album V8, 15 ans après leur dernière offrande. Hein. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de temps entre l'album Stop la Machine et V8. Et Vulcain, eh bien, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, puisque malgré donc les problèmes de santé que j'évoquais de son frontman, le groupe a balancé mi-septembre l'album Vinyle, qui n'est qu'une preuve de plus que le trio parisien est une machine instoppable, et une machine toujours au top de la scène hard rock hexagonale. Alors là, on va retrouver dans Vinyle des influences qui sont tout droit venues des années 70-80. Vous allez reconnaître plein d'hommages si vous écoutez l'album. C'est un album aussi qui est puissant, qui est vraiment taillé pour ceux qui aiment le bon vieux hard rock. Les compos, elles sont bien rentrées dedans, et une production qu'on voit pas mal de lourd. Et moi, je pense que Vinyle, c'est un des grands crus de la discographie de Vulcain, qu'on espère maintenant revoir très vite sur scène. Tout de suite, on écoute Vulcain avec un morceau qui s'appelle « Héros ».
We'll be right back.
héros des nos héros français, Vulcain, un extrait de l'album Vinyle paru le 14 septembre. Vulcain, un groupe présent depuis 1981, un groupe qui a toujours la pêche et voilà, qui propose toujours un hard rock puissant, énergique. D'ailleurs, ce morceau-là, Héros, qu'on a écouté, il aurait été tout à fait bien dans un album comme Rock'n'Roll Secours, le premier album du groupe. Il est vraiment forgé dans le son et l'identité que s'est fait Vulcain durant ses plus de 30 ans, maintenant presque 40 ans de carrière. Donc bravo à eux, et encore une fois, on espère que voilà, leur chanteur va vite aller mieux et qu'on va vite retrouver le groupe sur scène. Lors de la dernière émission, j'avais prévu de vous passer un extrait du nouvel album de Yudo qui est paru toute fin août. Malheureusement, on a eu une super interview avec Terra Fosa, donc c'est pas grave. Donc je me suis dit qu'on allait l'écouter aujourd'hui. Et depuis, il a pris une nouvelle dimension pour moi, ce morceau que j'avais prévu, puisque je voudrais le dédier à quelqu'un qui était un très très grand fan de Yudo Dirkschneider, du groupe Accept, et un grand fan de hard rock aussi. Cette personne que j'ai perdu récemment, c'est la personne qui m'avait donné cette passion pour le métal, qui me laisse avec une très très grande peine. Donc je voulais lui rendre hommage avec ce morceau de Yudo qu'on va écouter dans quelques minutes. Je vais quand même vous dire quelques mots sur l'album et le groupe, hein, ça n'empêche pas. Donc le nouvel album, il s'appelle Steel Factory. Yudo, c'est un groupe relativement ancien, qui a plus de 30 ans, puisque c'est un groupe qui date de 87, qui a vu le jour à Solingen en Allemagne, qui a été créé après que Yudo Dirkschneider se sépare de son groupe Accept, suite à des divergences musicales, puisque les membres d'Accept ne désiraient pas rester dans un style purement heavy metal, et Yudo, lui, voilà, voulait rester vraiment dans du metal, j'ai envie de dire traditionnel, même si à l'époque on parlait pas encore de heavy metal traditionnel. Alors, bien que Yudo Dirkschneider se sépare du groupe Accept, ils vont quand même garder d'excellents rapports entre eux, puisque les membres de son ex-groupe vont même lui donner un petit coup de main pour la composition de Animal House, son premier album sous le nom de Yudo, qui paraît en 88, qu'on peut un peu considérer avec l'album Mean Machine qui arrive l'année suivante comme étant la suite logique, par exemple, de Russian Roulette d'Accept, hein, tout à fait, hein, ça peut peut-être mieux d'ailleurs que l'album suivant qu'Accept a pu sortir. Ensuite, il y a eu Fastlace World, un album moins agressif mais plus accessible. Alors lui, il sort en 90, ce sera le plus gros succès commercial de Yudo. Mais Dirkschneider va pas être du tout satisfait de cette nouvelle direction. Il va remettre tout le monde au pas l'année suivante avec Time Bomb, un quatrième album de speed metal sans concession qui est largement influencé par le Painkiller de Judas Priest. Ensuite, Yudo Dirkschneider, il naviguera pas mal de temps entre Accept, où il va revenir, repartir, et puis Yudo, qui compte quand même à ce jour 16 albums dans sa discographie, donc c'est carrément énorme. Des albums qui ont acquis en qualité ces dernières années, je trouve, depuis que le chanteur semble enfin avoir définitivement tourné la page avec Accept. Je pense qu'il fallait absolument faire la session pour que Yudo puisse vraiment continuer à évoluer, parce qu'il y a eu un moment quand même où ça patinait un peu dans la semoule. Alors si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, il suffit d'écouter Steel Factory, en référence au surnom German Metal Tank du chanteur. C'est donc le dernier album signé Yudo, qui, sans rien révolutionner à son heavy, nous envoie quand même pleine face 13 bombes de métal lourd, avec une production en acier massif, et le tout toujours porté par la voix inimitable de l'emblématique Yudo Dirkschneider, qui n'a rien perdu de sa passion, de sa verve, de sa puissance et de sa hargne. En voici la preuve en musique, avec le titre Rising High. C'est Yudo sur VKFM.
Crashing all the rules.
Yudo avec le titre Rising High dans l'émission Check Me Out sur Back FM. Un titre que je dédie à celui qui aura été mon mentor, celui qui m'a passé qui m'a transmis cette passion du métal, passion qui m'anime aujourd'hui chaque seconde de ma vie. Elle était pour toi cette chanson et tu nous manqueras terriblement pour toujours. Voilà. Ceci étant dit, c'était un extrait de Steel Factory, nouvel album de Yudo paru le 31 août. Eh bien, ça y est, le temps qui m'était imparti est pratiquement tout écoulé. Donc, on va passer à la rubrique de clôture de cette émission, la rubrique 20 ans dans tes dents, qui, tous les 15 jours, eh bien, revient sur un album paru il y a pile 20 ans, époque où Check Me Out a fait son apparition sur Back FM, puisque cette année, Check Me Out a 20 ans. Et ben voilà, hein, prenez donc place dans notre DeLorean imaginaire. On part à la rencontre d'un groupe qui s'appelle Naivus et de son album intitulé Sun Meditation. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe Naivus ? C'est un groupe allemand qui a vu le jour en 1991 autour notamment de deux membres du groupe de power metal Sacred Steel. Donc le batteur Matthias Straub d'un côté et le guitariste Oliver Grossan de l'autre. Et même si ces deux-là viennent de la scène heavy, eh bien c'est dans un registre totalement différent qu'on va les retrouver avec Naivus, puisque là on est sur un mélange de metal stoner, de doom, de sludge. Donc vous voyez, pas grand rapport avec le heavy metal. Tout petit peu, mais pas grand quand même. Après 4 démos qui vont paraître entre 93 et 97, Naivus va sortir le 27 septembre 1998 son premier album intitulé Sun Meditation, dont on va écouter un extrait dans quelques minutes. Alors le groupe, il va splitter l'année suivante, hein, il va même carrément tomber dans l'oubli, avant de réapparaître en 2012. Mais comme on aime visiblement prendre son temps chez Naivus, cette reformation, elle va aboutir à un deuxième album qu'en 2016. Un album qui s'intitule Heavy Burden et qui a connu un succès extrêmement discret, je vous l'avoue. Mais revenons à l'album Sun Meditation. Donc il était paru sur le label Rise Record, qui est le label stoner par excellence, donc septembre 98 à l'époque. On y retrouve un son très typique de la scène stoner de cette fin des années 90, avec des rythmiques lourdes, hypnotiques, psychédéliques, mais qui paradoxalement dégage quand même une énergie assez étonnante, avec aussi un côté mélodique qui est très affirmé. Dans cet album qui est Sun Meditation, on sent très bien que l'ombre des pères du heavy et du doom que sont Black Sabbath ou Pentagram ne plane jamais bien loin. C'est juste dommage que Naivus n'ait pas eu plus de succès. Et même si le disque est pas super évident à trouver en version physique, si vous avez l'occasion de tomber dessus, ne le laissez pas filer. Et puis sinon, maintenant, grâce à la magie d'Internet, eh bien vous pouvez aller l'écouter sur les plateformes de streaming. Vous pouvez même le télécharger légalement ou illégalement. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, on va donc se quitter sur le morceau titre de cet album de Naivus, Sun Meditation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures métal. Et il y a quoi la semaine prochaine qui sort ? Ça va être quoi le gros événement ? Eh bien, ça va être le nouvel album des Tambours du Bronx, l'album metal avec Renaud, Stéphane Burier, avec Renato Di Folco et avec Frankie Costanza. Donc bien sûr, on en parle la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous, voici Naivus avec Sun Meditation. Volcanic radiation.